des mots pour le dire. Dominique Demichel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Dominique Demichel, bonjour.
Bonjour Simon.
Alors on sait que la mondialisation est la cause de la propagation si rapide, oserais-je dire, si méthodique de ce virus. Or, la mondialisation, paradoxalement, elle a permis aussi une mise en commun rapide et efficace des moyens pour venir à bout du virus. Évidemment, je pense aux vaccins où de nombreux pays se sont mis ensemble pour trouver ce vaccin, et surtout de nombreux chercheurs. Et ça, on le sait dans le domaine de la science, les chercheurs communiquent énormément entre eux, et là, peu importe les frontières.
Oui, alors je dois dire que j'ai un peu découvert le monde de la virologie. Hein. Nous, comme médecins, on n'est pas très très confrontés à la question des maladies virales. Pour nous, elles sont associées globalement aux épidémies de grippe, aux épidémies de gastro-entérite. En gros, ce sont le plus souvent des maladies bénignes. On est amené à voir de temps en temps les formes graves. Par exemple, des gastro-entérites chez les tout-petits qui ont moins de 6 à 8 mois, par exemple, et qui peuvent entraîner une déshydratation rapide. Voilà. Et donc, le traitement, en fait, c'est juste de réhydrater l'enfant, en gros, en attendant que ça passe. Chez les gens âgés, la grippe peut tuer en elle-même, mais souvent, ça se fait par le biais de surinfections bactériennes, là pour lesquelles il y a éventuellement un traitement. En même temps, donc, j'ai découvert, en lisant pas mal d'articles, que le domaine de la virologie était un domaine très, très largement exploré par les scientifiques, en fait, avec relativement peu de retentissement, même si nos auditeurs ont entendu certaines modalités de vaccination, par exemple, contre le cancer. Hein. La vaccination, par exemple, contre le virus de l'hépatite B, si toute la population du monde était vaccinée contre l'hépatite B, la population du monde ne ferait pas d'hépatite B. Or, on sait qu'un petit pourcentage d'hépatite B se transforme en cirrhose du foie et qu'un pourcentage de ces cirrhoses du foie donne des hépatocarcinomes, c'est-à-dire des cancers du foie. Donc, on voit bien là que le virus est indirectement, ou en tout cas directement, mais il ne suffit pas à expliquer, responsable d'un cancer. On sait par exemple, dans la vaccination des jeunes femmes et maintenant des jeunes hommes contre un virus particulier qui s'appelle le papillomavirus, qui s'installe à l'occasion de relations sexuelles au niveau du col de l'utérus, cette vaccination, probablement, même si on n'a pas tout à fait encore un recul suffisant, pourrait permettre de faire disparaître les dysplasies, voire et également les cancers du col de l'utérus, qui est un cancer qui apparaît chez la femme mûre, parce qu'il faut un long temps de développement. Voilà. Donc l'idée, par exemple, d'inventer des vaccins contre les cancers est une tendance de la recherche. Donc, en effet, les virologues se sont penchés beaucoup sur l'analyse des virus, sur leur patrimoine génétique pour les typer, c'est-à-dire on va déchiffrer exactement leur ARN, c'est-à-dire en quelque sorte trouver leur carte d'identité extrêmement précise. Et on s'aperçoit que de temps en temps, c'est comme chez un individu, deux jumeaux, mais qui ne seraient pas tout à fait jumeaux. Il y en a un qui va avoir les cheveux pas la même couleur, des yeux pas la même couleur, pas tout à fait la même taille, pas tout à fait la même stature. Et ça, ce sont ces variations.
Alors, chercheurs sans frontières, est-ce une illusion ou est-ce une réalité ?
Non, je crois que c'est une réalité. Les scientifiques il faut bien différencier la recherche scientifique et puis l'industrie pharmaceutique. Ce sont deux mondes différents. Évidemment, l'industrie pharmaceutique repose sur la recherche scientifique, mais ce sont de temps en temps deux budgets qui sont tout à fait séparés, même si on a vu ça avec la question de délits d'intérêt ou de conflits d'intérêt qu'il peut y avoir, même si l'industrie pharmaceutique, qui est une industrie marchande, hein, est là pour gagner de l'argent, mais elle a aussi de l'argent disponible qu'elle va mettre aussi dans la recherche. Hein. Donc ça crée de temps en temps, et plus souvent probablement qu'on ne le pense, des conflits. Disons bien tout de suite que la très grande majorité des recherches sont faites dans un but de recherche pour, au fond, faire progresser la santé de l'humanité. L'industrie pharmaceutique n'a pas cette finalité. Et de temps en temps, elle a oublié, au fond, une espèce d'éthique de l'honneur, on pourrait dire. Et de temps en temps, elle peut vendre des produits alors qu'elle sait très bien que ces produits sont inefficaces ou qu'ils sont dangereux. Et ça, on le sait bien avec tous les derniers scandales autour de certains types de médicaments. Alors, un élément qui est important aussi, c'est que Pourquoi on a trouvé si vite un vaccin? C'est aussi parce que la recherche était déjà très 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 avancée et que surtout l'industrie pharmaceutique a commencé à mettre en place des chaînes de production pour le virus, c'est-à-dire de mettre toute l'infrastructure en place avant de savoir si les premiers virus, les premiers vaccins avec ce virus à ARN étaient efficaces. Ce qui fait qu'en fait on a obtenu le vaccin relativement rapidement.
Alors, revenons à la mondialisation qui est le thème de cette émission, les enjeux planétaires. Cette mondialisation, on l'a vu aussi au niveau de l'argent, des soutiens financiers qui ont été versés aux chercheurs. Alors là, je m'appuie sur un article du Monde. Ce n'est plus en millions, mais en milliards d'euros ou de dollars que l'argent s'est déversé sur les instituts de recherche. Et même parfois de manière pas forcément cohérente. J'ai souvenir de l'interview de quelqu'un de chez Pasteur qui disait, oui, de toute façon, l'argent, nous, on ne peut pas aller plus vite que la musique. C'est pas parce qu'on nous donne beaucoup d'argent qu'on va aller plus vite pour rechercher un vaccin. Pasteur qui est malheureusement mis hors course, là, pour le coup, pour le vaccin. Donc, c'était peut-être pas la bonne stratégie qu'ils ont adoptée.
Non, puis vous savez, actuellement, une partie du personnel du laboratoire à dimension mondiale qui s'appelle Sanofi vient de licencier une bonne partie de ses chercheurs dans le cadre de la recherche et du développement. Et c'est vrai que je ne connais pas du tout le fond de l'affaire, donc je risque de dire des bêtises, donc je ne dis pas trop de commentaires. Mais pour le grand public dont je fais partie, c'est vrai que de temps en temps, on peut rester un tout petit peu amer par le secteur de la recherche en France, alors qu'il y a des très grands chercheurs, alors que Pasteur est quand même un lieu dans lequel il y a à la fois une histoire, à la fois des compétences scientifiques et des compétences humaines, et que probablement c'est un petit peu dommage. Bon, peut-être que Pasteur va arriver avec un petit peu de retard, peut-être que Sanofi va s'y mettre, et peut-être que, voilà, ça sera pour le prochain vaccin, pas pour celui-là, mais peut-être pour l'autre, on peut en tout cas l'espérer.
En tout cas, on a vu tous les gouvernements se mobiliser, les fondations se mobiliser pour mettre de l'argent sur la table.
Un des éléments aussi qui a largement contribué au développement de ces recherches, c'est qu'une bonne partie des milliards qui ont été en effet déversés dans le champ de la recherche étaient des milliards qui venaient de l'État. Hein. Donc voilà, il y avait une sorte de garantie de l'État par rapport à cet argent. Et donc ça a permis en tout cas à certains laboratoires de recherche de se développer plus sans avoir notamment l'angoisse du rendement ou d'avoir à payer les actionnaires.
Alors, on pourrait croire effectivement à une universalité des valeurs. Cependant, faut-il être naïf à ce point?
Non, je pense qu'il ne faut pas du tout être naïf. Et d'ailleurs, il me semble que nous avons tous nos réflexes égoïstes. Hein. Alors peut-être on ne pense pas pour soi-même, mais on pense à ses parents ou à ses grands-parents. Et peut-être parmi les auditeurs, il y a des gens qui ont plus de 75 ans ou qui ont un petit peu moins, mais des facteurs de risque et qui ont très très envie de se faire vacciner au plus tôt. Voilà, et puis il y a probablement des pays qui vont avoir du mal à payer ces vaccins, même si en général les tarifs de vente de certains types de médicaments, le vaccin étant évidemment un petit peu à part, souvent varient suivant leur destinataire. Voilà, c'est compliqué, on pense en particulier à toute l'Afrique noire, hein, qui, voilà, pour l'instant a l'air d'être relativement épargnée, peut-être à part l'Afrique du Sud. Mais qui va aussi vraisemblablement avoir besoin de ce vaccin.
Parce que les plus optimistes, et là je repense au journal Le Monde, à cet article qui date du 23 décembre, signé Nathaniel Herzberg, qui est très optimiste finalement sur la mobilisation des États du monde entier, comme si les valeurs humanistes avaient conquis le monde à l'occasion de cette pandémie. Qu'en pensez-vous, docteur?
Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, j'aurais envie de dire qu'il y a une sorte de trait de caractère chez moi qui est un petit peu d'être optimiste. Donc, je pense que voilà, j'ai envie d'être optimiste, hein, dans une sorte d'optimisme de la volonté, comme disait Gramsci. Mais que, à contrario, on peut penser que nous avons été quand même extrêmement naïfs par rapport à cette valeur de l'humanisme. Hein. On a cru pendant très très longtemps, au fond, en particulier après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui est apparue comme ce terrible cauchemar, après ces 30 glorieuses, où nous étions, c'est-à-dire ces années-là qui ont duré à peu près une trentaine d'années avant le premier choc pétrolier, puis toutes les crises économiques qui ont suivi, qui ont été marquées par beaucoup de consommation, peut-être dans une sorte de rattrapage, de compensation hein, par rapport à ces deux guerres mondiales qui avaient été quand même extrêmement, extrêmement proches l'une de l'autre. Voilà, on a pensé que l'universalité, au fond, des valeurs de l'humanisme, allait triompher. Et puis, ça s'est révélé faux, et ça s'est révélé, au fond, presque une sorte de fantasme délirant. C'est-à-dire, ça n'est plus un fantasme, ça n'est plus du côté de l'imaginaire, mais c'est d'un délire. Probablement, on peut quand même penser que le système démocratique, j'entendais hier à la radio Marcel Gauchet en parler, que la démocratie a probablement gagné profondément les cœurs. Mais la démocratie, probablement, actuellement, elle reste malade. C'est-à-dire, peut-être, elle n'a plus d'ennemis fondamentaux. Mais on voit bien, dans ces démocraties illibérales, comme on les appelle, qu'il y a des chefs d'État qui sont élus de manière démocratique, voilà, avec un mode de fonctionnement démocratique, mais qu'il y a des tas de choses qui se passent. Donc on voit que l'histoire reste ce lieu avec un grand conflit de valeurs, avec des valeurs qui gardent leur puissance, et puis d'autres qui ont l'air d'être oubliées, ou alors elles sont manipulées, elles sont utilisées pour, voilà, à des fins, on pourrait dire, de prise de pouvoir, à des fins belliqueuses, en particulier dans ce conflit entre les lois individuelles, la liberté individuelle par exemple, et les lois collectives, c'est-à-dire avec la nécessité de préserver l'espace commun dans le cadre de ce contrat social, et ce contrat social s'opposant parfois au désir individuel.
Oui, on va y revenir dans quelques instants. Et là, il y a beaucoup à dire sur notre démocratie, sur ce sujet-là, me semble-t-il. Juste avant, j'aimerais tirer un petit peu les conséquences de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que cette certitude que nous avons eue, ce fantasme, comme vous l'appelez, ce délire, eh ben, il fait place, encore une fois, à une incertitude, et l'incertitude qui conduit à une forme d'angoisse que l'on ressent assez fortement, me semble-t-il, ces temps-ci, quoi.
Oui, je pense que depuis
un pandémie petit peu plus... ou pas, d'ailleurs. Hein, oui.
Pardon ?
Pandémie ou pas, même en dehors de la pandémie,
oui.
Cette angoisse, on
je pense. Oui. Alors, on peut redire peut-être des idées fondamentales. Certains penseront que ce sont peut-être un peu des clichés, mais que les grands récits mythologiques ont un petit peu disparu, les grandes perspectives de progrès probablement aussi un petit peu disparu, que peut-être comment je dirais, une sorte d'élan transcendant avec l'idée qu'il y a quelque chose de plus grand que soi au fond à accomplir. Peut-être ça s'est un petit peu évanoui au profit d'une sorte de consommation effrénée. Et donc peut-être que cette dimension du spirituel a un peu quitté les champs de nos préoccupations quotidiennes. C'est vrai, je reprends votre mot du côté des incertitudes, c'est vrai qu'on a vécu cette année 2020 et ce début d'année 2021 là comme empli en permanence d'incertitudes. Hein. D'incertitudes parce qu'on était face à une nouvelle maladie qu'on ne connaissait pas, parce qu'au fur et à mesure il fallait improviser. Et en même temps, on pourrait dire que, ça c'est Nietzsche qui dit ça, ce n'est pas le doute qui rend fou, ce sont les certitudes. Et on sait bien, vous savez, que les fanatiques en particulier sont remplis de certitudes. C'est-à-dire, voilà, pour eux tout est simple, tout est clair. Et j'aime bien souvent rappeler cette phrase que j'ai dû entendre quelque part, il faut 3 semaines pour faire un terroriste et 30 ans pour faire un intellectuel ou quelqu'un en tout cas susceptible de poser de manière réelle, objective, tranquille, les termes d'une discussion, les termes d'un échange pour que chacun s'écoute et soit attentif à la parole de l'autre. Donc là, actuellement, il nous faut penser nos doutes, nos incertitudes, notre non-savoir par rapport à ce virus, par exemple, mais aussi par rapport à la crise climatique, par rapport à la crise sociale. Voilà, donc on a pu penser pendant très très longtemps que la planification, notre savoir, allait faire disparaître l'aléatoire, l'impression, l'imprévu, l'imprévisible, l'imprécis. Voilà, il suffisait de mettre un tout petit peu d'informatique qui chosifiait, d'inventer quelques algorithmes qui allaient prévoir et déterminer, et nous allions d'un seul coup savoir ce qui était vrai. Et puis, cette crise climatique, qui évidemment qu'on connaît depuis sûrement plus de 30 ans, cette crise sociale que l'on connaît peut-être depuis bien depuis une dizaine d'années, et cette crise sanitaire qui occupe toutes nos pensées et nos journées depuis peut-être une quinzaine de mois, fait que l'incertitude est devenue notre lot quotidien.
Alors, cette incertitude, évidemment, elle nous fragilise et elle fragilise jusqu'à nos convictions. Alors, l'autre soir, ma fille me posait la question suivante. Crois-tu que si le gouvernement ordonnait qu'on porte les masques chez soi, les gens respecteraient cette consigne? C'est difficile, évidemment, à dire, mais on voit bien qu'avec la pandémie, nombre de nos libertés individuelles ont été un petit peu bousculées, en tout cas.
Alors moi je trouve cette question assez géniale. Donc je veux bien que vous la reposiez. Elle disait quoi votre fille? Elle posait quoi
Et
votre fille?
si le gouvernement ordonnait que l'on porte le masque chez soi, donc ils n'auraient aucun moyen de vérifier,
Oui.
est-ce que les gens le porteraient quand même par respect pour la loi et pour le gouvernement? C'est vrai qu'on a pu voir des gens qui se promenaient en masque tout seuls dans la forêt ou dans les champs sans croiser personne, ou alors dans leur voiture tout seul, ça peut poser question sur l'utilité en tout cas du masque quand on est tout seul, effectivement.
Alors, cette question, je trouve qu'elle est complexe, hein, parce que j'ai peut-être un peu envie qu'on essaye de la reprendre. Donc, si le gouvernement disait qu'il fallait garder son masque chez soi, est-ce que les gens le feraient? Qu'est-ce que ça pose comme question? Ça pose d'abord une question presque antérieure à la question qui est pourquoi le gouvernement dit ça? La deuxième question, c'est est-ce que la parole du gouvernement est fiable? La troisième question, c'est entre la parole du gouvernement et ta parole à toi, papa, quelle est la plus valide, au fond? Sur quoi ça repose? Et puis, ensuite, il y a la question qui est la question la plus évidente, qui est le rapport à la loi. Et au fond, on s'aperçoit ici qu'il y a deux lois qui s'opposent. Et ces deux lois qui ont leur légitimité dans une certaine mesure. Une loi collective, dont on peut se dire qu'elle serait a priori valable, valide, hein, et qu'elle serait argumentée par des faits scientifiques, prouvables, reproductibles. Voilà. Donc on pourrait dire, par exemple, si il est prouvé que dans certains départements, le confinement à 18 heures fait diminuer la contagion de 50% ou de 80% ou peut-être même de 20%, mais qu'on évite une dizaine de morts tous les jours, et bien évidemment, pour les 10 morts qui ne sont pas morts, ça vaut peut-être le coup. En même temps, on pourrait se dire, oui, mais quelle est la mesure qui est juste? C'est-à-dire, est-ce que au fond, contraindre 10 millions, voire 65 millions de Français à une contrainte extrêmement difficile, est-ce que c'est justifié par rapport au fait, par exemple, qu'on va économiser 10 morts, hein? Voilà, ce temps que ces 10 morts étaient peut-être des gens âgés. Alors évidemment, on pourrait dire, oui, mais entre une contrainte qui n'est quand même pas si terrible que ça et une vie humaine, il n'y a pas débat ou il n'y a pas photo, hein? On a parlé de tout ça lors de nos précédentes émissions. Donc je trouve que la question de votre fille est quand même très intéressante parce que elle pose la question de la réflexion à tous les niveaux. Quelle est la valeur de la loi donnée par l'État? Quelle est la valeur de la loi à l'intérieur de la famille? Quelle est la valeur de la loi en elle-même? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste, tout à fait justifié? Et puis peut-être votre fille, elle aurait pu vous dire. Et puis peut-être que votre fille, elle aurait pu vous dire. Oui, mais si on reste tous à la maison, peut-être qu'on va être très triste, peut-être qu'on va être plus malade, peut-être qu'on ne va plus avoir à manger, peut-être qu'il va se passer des tas d'autres drames. Est-ce que le chef du gouvernement qui a dit ça, est-ce qu'il a pris en compte tout ça? Hein? Donc on s'aperçoit que je trouve que cette question-là, elle est une vraie question, mais quand on essaye de répondre, alors peut-être vous allez me dire ce que vous avez répondu, mais qu'en soi, quand même, la réponse est difficile parce que on est vraiment dans une tension entre les libertés individuelles et les libertés collectives, hein, et que ça n'est pas simple.
Et malheureusement, l'histoire aussi nous donne des exemples entre la sécurité et la liberté, là la santé et la liberté.
Oui.
Généralement, en tout cas en France, on a choisi la sécurité en 1938. Le Parlement ne s'est rassemblé qu'une fois ou deux, laissant les pleins pouvoirs au gouvernement pour des questions de sécurité et puis d'autorité, de son plein gré, sans qu'il y ait de coup d'État. Et on a bien vu avec en France, finalement, je vais dire assez peu de revendications contre le masque, assez peu de. Il y en a eu quelques-unes au début. On sent que ça s'est un petit peu tassé, alors que aux États-Unis, c'est devenu un marqueur politique de se promener sans son masque dans les rues.
Oui, oui. Oui, oui. Et comme vous le dites, c'était un marquage politique. Ça n'était pas un marquage
des
scientifique,
bien sûr, ouais.
Ou un marquage qui était lié au fait que les masques ne servent à rien, par exemple. Là, c'était pas.
Mais il faut dépasser le caractère scientifique dans le sens où cette loi serait promulguée parce que les chiffres le disent. Après tout, si le gouvernement est assez convaincant pour chiffres ou pas à l'appui, s'il arrive à me convaincre, moi je m'incline. Hein, on sait bien que les chiffres ne peuvent pas tout, et puis qu'effectivement la science a ses limites. Nous l'avons dit aussi dans les autres émissions sur la nouveauté de cette pandémie.
Voilà, donc je pense que l'important dans ce genre de choses, peut-être, j'imagine que si un de mes enfants me posait cette question-là, parce que dans la question, il y en a une autre qui est de dire. Est-ce que l'obéissance nécessite qu'il y ait, au fond, un policier ? Au fond, elle dit ça aussi, la question.
Tout à fait, tout à fait.
Et on pourrait dire qu'à ce moment-là, il y a deux types de policiers. C'est-à-dire qu'il y a le policier extérieur et il y a le policier intérieur. Hein. Le policier intérieur, au fond, votre fille, elle dit « Mais papa, il n'y aura pas de policier à l'intérieur. Hein. Ce n'est pas toi qui vas aller me dénoncer. Donc, je suis libre de ne pas le mettre. » Et puis, voilà. Mais il y a aussi le policier intérieur. Et là, on voit bien que l'articulation entre le parent et l'enfant est complexe, puisqu'au fond, peut-être ce qu'elle demande, c'est « Et papa, toi, qu'est-ce que tu fais ?» Voilà. Comme si, au fond, elle, sa position, allait être déterminée par ce que vous, en tant que parent, vous allez faire. Et évidemment, là, la question chez le parent n'est pas simple, puisqu'au fond, il va être tiraillé entre deux espaces. Par exemple, sa liberté individuelle et l'idée, oui, mais à la maison, de toute façon, les moments où on est tellement en contact sont si nombreux que de toute façon, avec ou sans masque, ça risque de rien changer. Argumentaire qui est peut-être valide. Et puis, peut-être, on va s'apercevoir que quand même, si je n'ai pas d'idée, je n'ai aucune connaissance là-dessus, que si on porte un masque tout le temps, eh bien, finalement, le risque d'attraper la maladie diminue. Ou en tout cas, par exemple, il faudrait le faire avec tous les gens, voilà, c'est-à-dire cette petite fille avec ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents, voilà, elle devrait toujours porter un masque et se laver les mains. Et puis, il y a vous, votre position, où vous avez le droit de penser ça, et puis vous vous dites, mais j'ai aussi une dimension éducative. C'est-à-dire, évidemment, si moi je ne porte pas le masque, je ne vois pas pourquoi ma fille va porter le masque. Donc je peux être tenté aussi, moi, de porter le masque parce que le gouvernement l'a dit et parce que j'ai une dimension éducative.
Et malheureusement, on pourra se rendre compte que si la situation dure, eh bien, peut-être que la dénonciation, même au sein des familles, comme on l'a vu dans des régimes communistes, pourrait ouais. se mettre en place. Mais là, nous sommes, je l'espère, dans la science-fiction. Docteur Dominique Desmichel, avant de terminer cette émission, dernière question aussi, pas facile à trancher. Alors, faudrait-il rendre le vaccin obligatoire ?
Il y a deux types de choses. D'abord, je reviens un tout petit peu sur l'histoire. Si vous allez dans beaucoup de pays, en particulier en Afrique, on vous dit « il faut que vous soyez vacciné contre la fièvre jaune ». Et moi, je dis ça à mes patients qui me disent « ah ben, je pars là-bas ». Alors, je regarde, on a un petit cahier où il y a le site de Pasteur, par exemple. Le site de Pasteur à Lille, il est très bien fait. Donc, on regarde sur Internet parce que c'est actualisé. Et ils nous disent, en fait, ils nous disent ceci. Dans tel pays, il y a du paludisme, voilà ce qu'il faut utiliser comme médicament, 1, 2, 3, voilà, et il y a de la fièvre jaune, voilà. Et je n'ai jamais entendu un seul de mes patients me dire « Ah, mais docteur, moi, je ne veux pas être vacciné contre la fièvre jaune ». En général, d'ailleurs, je leur explique que la fièvre jaune est une maladie pour laquelle il n'y a pas de traitement, et c'est une maladie grave avec une mortalité importante. Donc, vous voyez, on pourrait se dire que être vacciné, la belle affaire. Je rappelle toujours à mes patients que les accidents secondaires à la prise de médicaments sont extrêmement, extrêmement nombreux. Je pense que l'ordre de grandeur, mais peut-être je dis des bêtises, mais pour un ordre de grandeur, je dirais 10 à 15% des hospitalisations sont liées à des effets toxiques des médicaments. Donc vous voyez, c'est une quantité relativement importante. Et qu'avec tous les procès qu'il y a eu ces derniers temps autour des médicaments, que ce soit la dépakine, le médiator, etc., enfin tout le monde connaît ça, il y a énormément d'accidents. Les premières vaccinations, elles ont commencé avec Pasteur un tout petit peu après l'année 1800. Hein. D'ailleurs, on prenait énormément de risques à ce moment-là parce qu'on vaccinait quelqu'un. Ensuite, on prenait un peu de son pus et à partir de son pus qui coulait de son bras, on revaccinait quelqu'un d'autre. Donc, on risquait de transmettre des maladies, en particulier la syphilis, hein, ce qui posait des tas de problèmes à cette époque-là. Mais en tout cas, ça a bien marché. Donc, vous voyez, dans un certain cas, dans un certain sens, on pourrait dire, ben voilà, si vous voulez sortir du pays... Vous n'êtes pas obligé de sortir, mais par contre, si vous allez dans tel pays, il vous faut vacciner. Moi, personnellement, ça ne me poserait pas énormément de problèmes. À partir du moment où, justement, vous avez une alternative, c'est-à-dire le pays l'exige, vous n'êtes pas vacciné. Et puis d'un autre côté, on pourrait dire, oui, mais le vaccin contre la fièvre jaune, il est utilisé depuis extrêmement longtemps, il est parfaitement bien toléré. Nous, notre dernière fille, normalement, on vaccine à partir de 1 an. Voilà, notre dernière fille, quand on est parti en Afrique, elle avait 11 mois. On est allé voir les gens spécialistes qui nous ont dit, bah oui, normalement, le vaccin, c'est à partir de 1 an. Mais là, il y a trop de risques, donc on l'a vacciné. On l'a vacciné, il ne s'est rien passé, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, on ne s'est pas du tout posé la question à ce moment-là. On s'est dit, il y a une maladie grave, là, en l'occurrence, très très grave, hein, rien à voir avec le coronavirus, hein, mais c'est une maladie grave, donc on se vaccine. Donc vous voyez, là, il me semble que l'enjeu, c'est de continuer la réflexion. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse univoque et facile. Moi, j'allais dire que pour aller dans un pays, il faut être vacciné contre telle maladie, parce qu'il y va de l'enjeu sanitaire de ce pays-là, qui est garant de, autant que possible de la santé de ses habitants. Je dis bien autant que possible, parce que dire que le gouvernement nous protégera contre toutes les maladies, c'est complètement, complètement illusoire. Ça, c'est absolument impossible. En tout cas, moi, ça ne me choque pas, ça, à condition, bien évidemment, qu'il y ait une élaboration. Et évidemment, on n'est pas du tout dans la même situation si c'est la fièvre pour l'Ebola, par exemple, qui est une maladie avec 50% de mortalité, et puis celle-là avec, on va dire, mettons, 5% de mortalité. Hein. Voilà.
Docteur Dominique Desmichel, un grand merci. Nous y reviendrons la semaine prochaine sur ces questions de liberté, bien sûr.
Merci Simon.
À très bientôt. 1, 2, 3.